Honoré de Balzac. Le curé de village. Lu et illustré musicalement par Aegidius. Chapitre 1er, Véronique. Dans le bas Limoges.
Au coin de la rue de la Vieille Poste et de la rue de la Cité, se trouvait, il y a 30 ans, une de ces boutiques auxquelles il semble que rien n'ait été changé depuis le Moyen-Âge. De grandes dalles cassées en bilan droit, posées sur le sol qui se montrait humide par places, auraient fait tomber quiconque n'eût pas observé les creux et les élévations de ce singulier carrelage. Les murs poudreux laissaient voir une bizarre mosaïque de bois et de briques, de pierres et de fer tassés avec une solidité due au temps, peut-être au hasard. Le plancher, composé de poutres colossales, pliait depuis plus de 100 ans, sans rompre sous le poids des étages supérieurs. Bâtis en colombage, ces étages étaient à l'extérieur couverts en ardoises clouées, de manière à dessiner des figures géométriques, et conservaient une image naïve des constructions bourgeoises du vieux temps. Aucune des croisées encadrées de bois, jadis brodées de sculptures aujourd'hui détruites par les intempéries de l'atmosphère, ne se tenaient d'aplomb. Les unes donnaient du nez, les autres rentraient. Quelques-unes voulaient se disjoindre. Toutes avaient du terreau apporté on ne sait comment, dans les fentes creusées par la pluie, et d'où s'élançaient au printemps quelques fleurs légères, de timides plantes grimpantes, des herbes grêles. La mousse veloutait les toits et les appuis. Le pilier du coin, quoiqu'en maçonnerie composite, c'est-à-dire de pierres mêlées de briques et de cailloux, effrayait le regard par sa courbure. Il paraissait devoir céder quelques jours sous le poids de la maison, dont le pignon surplombait d'environ un demi-pied. Aussi l'autorité municipale et la voirie firent-elles abattre cette maison après l'avoir achetée, afin d'élargir le carrefour. Ce pilier, situé à l'angle des deux rues, se recommandait aux amateurs d'antiquités limousines par une jolie niche sculptée, où se voyait une vierge, mutilée pendant la Révolution. Les bourgeois à prétentions archéologiques y remarquaient les traces de la marge en pierre destinée à recevoir les chandeliers, où la piété publique allumait des cierges, mettait ses ex-voto et des fleurs. Au fond de la boutique, un escalier de bois vermoulu conduisait aux deux étages supérieurs, surmonté d'un grenier. La maison, adossée aux deux maisons voisines, n'avait point de profondeur et ne tirait son jour que de croisées. Chaque étage ne contenait que de petites chambres, éclairées chacune par une croisée donnant l'une sur la rue de la Cité, l'autre sur la rue de la Vieille Poste. Au Moyen-Âge, aucun artisan ne fut mieux logé. Cette maison avait évidemment appartenu jadis à des faiseurs d'aubergeons, à des armuriers, à des couteliers, à quelques maîtres dont le métier ne haïssait pas le plein air. Il était impossible d'y voir clair sans que les volets ferrés fussent enlevés sur chaque face, ou de chaque côté du pilier, il y avait une porte, comme dans beaucoup de magasins situés au coin de deux rues. À chaque porte, après le seuil en belle pierre usée par les siècles, commençait un petit mur à hauteur d'appui, dans lequel était une rainure répétée à la poutre d'en haut, sur laquelle reposait le mur de chaque façade. Depuis un temps immémorial, on glissait de grossiers volets dans cette rainure. On les assujettissait par d'énormes bandes de fer boulonné. Puis, les deux portes une fois closes par un mécanisme semblable, les marchands se trouvaient dans leur maison comme dans une forteresse. En examinant l'intérieur, que pendant les premières 20 années de ce siècle, les limousins virent encombrés de ferrailles, de cuivre, de ressorts, de fer de roue, de cloches, et de tout ce que les démolitions donnent de métaux,
les gens qui intéressaient ce débris de la vieille ville y remarquaient la place d'un tuyau de forge, indiqué par une longue traînée de suie, détail qui confirmait les conjectures des archéologues sur la destination primitive de la boutique. Au premier étage était une chambre et une cuisine. Le second avait deux chambres. Le grenier servait de magasin pour les objets plus délicats que ceux jetés pêle-mêle dans la boutique. Cette maison louée d'abord fut plus tard achetée par un nommé Sauvia, marchand forain, qui de 1792 à 1796 parcourut les campagnes dans un rayon de 50 lieues autour de l'Auvergne, en y échangeant des poteries, des plats, des assiettes, des verres, enfin les choses nécessaires aux plus pauvres ménages, contre de vieux fers, des cuivres, des plombs, contre tout métal sous quelque forme qu'il se déguisa. L'Auvergnat donnait une casserole en terre brune de 2 sous pour 1 livre de plomb ou pour 2 livres de fer. Bêche cassée ou brisée, vieille marmite fendue. Et toujours juge en sa propre cause, il pesait lui-même sa ferraille. Dès la 3e année, Sauvia joignit à ce commerce celui de la chaudronnerie. En 1793, il put acquérir un château vendu nationalement et le dépeça. Le gain qu'il fit, il le répéta sans doute sur plusieurs points de la sphère où il opérait. Plus tard, ses premiers essais lui donnèrent l'idée de proposer une affaire en grand à l'un de ses compatriotes à Paris. Ainsi la bande noire, si célèbre par ses dévastations, naquit dans la cervelle du vieux Sauvia, le marchand forain que tout Limoges a vu pendant 27 ans dans cette pauvre boutique, au milieu de ses cloches cassées, de ses fléaux, de ses chaînes, de ses potences, de ses gouttières en plomb tordu, de ses ferrailles de toute espèce. On doit lui rendre la justice de dire qu'il ne connut jamais ni la célébrité, ni l'étendue de cette association. Il n'en profita que dans la proportion des capitaux qu'il avait confiés à la fameuse maison Brézac. Fatigué de courir les foires et les villages, l'Auvergnat s'établit à Limoges, où il avait, en 1797, épousé la fille d'un chaudronnier veuf nommé Champagnac. Quand mourut le beau-père, il acheta la maison où il avait établi d'une manière fixe son commerce de ferrailleur, après l'avoir encore exercé dans les campagnes pendant 3 ans, en compagnie de sa femme. Sauvia atteignait à sa 50e année quand il épousa la fille du vieux Champagnac, laquelle, de son côté, ne devait pas avoir moins de 30 ans. Ni belle ni jolie, la Champagnac était née en Auvergne, et le patois fut une séduction mutuelle. Puis elle avait cette grosse encolure qui permet aux femmes de résister aux plus durs travaux. Aussi accompagna-t-elle Sauvia dans ses courses. Elle rapportait du fer ou du plomb sur son dos et conduisait le méchant fourgon plein de poteries avec lesquelles son mari faisait une usure déguisée. Brune, colorée, jouissant d'une riche santé, la Champagnac montrait en riant des dents blanches, hautes et larges comme des amandes. Enfin, elle avait le buste et les hanches de ces femmes que la nature a faites pour être mère. Si cette forte fille ne s'était pas plutôt mariée, il fallait attribuer son célibat aux 100 dots d'Harpagon que pratiquait son père, sans avoir jamais lu Molière. Sauvia ne s'effraya point du 100 dots. D'ailleurs, un homme de 50 ans ne devait pas élever de difficultés, puis sa femme allait lui épargner la dépense d'une servante. Il n'ajouta rien au mobilier de sa chambre, où, depuis le jour de ses noces jusqu'au jour de son déménagement, il n'y eut jamais qu'un lit à colonnes, orné d'une pente découpée et de rideaux en serge verte, un bahut, une commode, 4 fauteuils, une table et un miroir, le tout rapporté de différentes localités. Le bahut contenait dans sa partie supérieure une vaisselle en étain dont toutes les pièces étaient dissemblables. Chacun peut imaginer la cuisine d'après la chambre à coucher. Ni le mari ni la femme ne savaient lire, légers défauts d'éducation qui ne les empêchaient pas de compter admirablement, et de faire le plus florissant de tous les commerces. Sauvia n'achetait aucun objet sans la certitude de pouvoir le revendre à 100% de bénéfice. Pour se dispenser de tenir des livres et une caisse, il payait et vendait tout au comptant. Il avait d'ailleurs une mémoire si parfaite qu'un objet resta-t-il 5 ans dans sa boutique, sa femme et lui se rappelaient, à 1 liard près, le prix d'achat enchéri chaque année des intérêts. Excepté pendant le temps où elle vaquait aux soins du ménage, la Sauvia était toujours assise sur une mauvaise chaise en bois, adossée au pilier de sa boutique. Elle tricotait en regardant les passants, veillant à sa ferraille et la vendant, la pesant, la livrant elle-même si Sauvia voyageait pour des acquisitions. À la pointe du jour, on entendait le ferrailleur travaillant ses volets. Le chien se sauvait par les rues. Et bientôt, la Sauvia venait aider son homme à mettre sur les appuis naturels que les petits murs formaient rue de la Vieille Poste et rue de la Cité. Des sonnettes, de vieux ressorts, des grelots, des canons de fusil cassés, des brimborions de leur commerce qui servaient d'enseigne et qui donnaient un air assez misérable à cette boutique, où souvent il y avait pour 20 000 francs de plomb, d'acier et de cloches. Jamais ni l'ancien brocanteur forain ni sa femme ne parlèrent de leur fortune. Ils la cachaient comme un malfaiteur cache un crime. On les soupçonna longtemps de rogner les louis d'or et les écus. Quand mourut Champagnac, les Sauvia ne firent point d'inventaire. Ils fouillèrent avec l'intelligence des rats tous les coins de sa maison, la laissèrent nue comme un cadavre, et vendirent eux-mêmes les chaudronneries dans leur boutique. Une fois par an, en décembre, Sauvia allait à Paris, et se servait alors de la voiture publique. Aussi les observateurs du quartier présumaient-ils que pour dérober la connaissance de sa fortune, le ferrailleur opérait ses placements lui-même à Paris. On sut plus tard que lié dans sa jeunesse avec un des plus célèbres marchands de métaux de Paris, Auvergnat comme lui, il faisait prospérer ses fonds dans la caisse de la maison Brézac, la colonne de cette fameuse association appelée la Bande Noire, qui s'y forma, comme il a été dit, d'après le conseil de Sauvia, un des participants. Sauvia était un petit homme gras, à figure fatiguée, doué d'un air de probité qui séduisait le chaland, et cet air lui servait à bien vendre. La sécheresse de ses affirmations et la parfaite indifférence de son attitude aidaient ses prétentions. Son teint coloré se devinait difficilement sous la poussière métallique et noire qui saupoudrait ses cheveux crépus et sa figure marquée de petites véroles. Son front ne manquait pas de noblesse. Il ressemblait au front classique prêté par tous les peintres à Saint-Pierre, le plus rude, le plus peuple, et aussi le plus fin des apôtres. Ses mains étaient celles du travailleur infatigable, larges, épaisses, carrées et ridées par des espèces de crevasses solides. Son buste offrait une musculature indestructible. Il ne quitta jamais son costume de marchand forain, gros souliers ferrés, bas bleus tricotés par sa femme et cachés sous des guêtres en cuir, pantalon de velours vert bouteille, gilet à carreaux d'où pendait la clé en cuivre de sa montre d'argent, attachée par une chaîne en fer, que l'usage rendait luisante et polie comme de l'acier, une veste à petites basques, en velours pareil au pantalon, puis autour du cou, une cravate en rohannerie, usée par le frottement de la barbe. Les dimanches et jours de fête, Sauvia portait une redingote de drap marron, si bien soignée qu'il ne la renouvela que 2 fois en 20 ans. La vie des forçats peut passer pour luxueuse comparée à celle des Sauvia. Ils ne mangeaient de la viande qu'aux jours de fête carillonnés. Avant de lâcher l'argent nécessaire à leur subsistance journalière, la Sauvia fouillait dans ses 2 poches cachées entre sa robe et son jupon, et n'en ramenait jamais que de mauvaises pièces rognées, des écus de 6 livres ou de 55 sous, qu'elle regardait avec désespoir avant d'en changer une. La plupart du temps, les Sauvia se contentaient de harengs, de pois rouges, de fromages,
d'œufs durs mêlés dans une salade, de légumes assaisonnés de la manière la moins coûteuse. Jamais ils ne firent de provisions, excepté quelques bottes d'ail ou d'oignons qui ne craignaient rien et ne coûtaient pas grand-chose. Le peu de bois qu'ils consommaient en hiver, la Sauvia l'achetait aux fagoteurs qui passaient et au jour le jour. À 7 heures en hiver, à 9 heures en été, le couple était couché, la boutique fermée et gardée par leur énorme chien qui cherchait sa vie dans les cuisines du quartier. La mère Sauvia n'usait pas pour 3 francs de chandelles par an. La vie sobre et travailleuse de ces gens fut animée par une joie, mais une joie naturelle, et pour laquelle ils firent leur seule dépense connue. En mai 1802, la Sauvia eut une fille. Elle s'accoucha toute seule et vainquait aux soins de son ménage 5 jours après. Elle nourrit elle-même son enfant sur sa chaise, en plein vent, continuant à vendre la ferraille pendant que sa petite tétait. Son lait ne coûtant rien, elle laissa téter pendant 2 ans sa fille qui ne s'en trouva pas mal. Véronique devint le plus bel enfant de la basse ville. Les passants s'arrêtaient pour la voir. Les voisines aperçurent alors chez le vieux Sauvia quelques traces de sensibilité, car on l'en croyait entièrement privé. Pendant que sa femme lui faisait à dîner, le marchand gardait entre ses bras la petite et la berçait en lui chantonnant des refrains auvergnats. Les ouvriers le virent parfois immobile, regardant Véronique endormie sur les genoux de sa mère. Pour sa fille, il adoucissait sa voix rude. Il essuyait ses mains à son pantalon avant de la prendre. Quand Véronique essaya de marcher, le père se pliait sur ses jambes et se mettait à 4 pas d'elle, en lui tendant les bras et lui faisant des mines qui contractaient joyeusement les plis métalliques et profonds de sa figure âpre et sévère. Cet homme de plomb, de fer et de cuivre redevint un homme de sang, d'os et de chair. Était-il le dos appuyé contre un pilier, immobile comme une statue? Un cri de Véronique l'agitait. Il sautait à travers les ferrailles pour la trouver, car elle passa son enfance à jouer avec les débris de châteaux amoncelés, dans les profondeurs de cette vaste boutique, sans se blesser jamais. Elle allait aussi jouer dans la rue ou chez des voisins, sans que l'œil de sa mère la perdît de vue. Il n'est pas inutile de dire que les Sauvia étaient éminemment religieux. Au plus fort de la Révolution, Sauvia observait le dimanche et les fêtes. À 2 fois, il manqua de se faire couper le cou pour être allé entendre la messe d'un prêtre non assermenté. Enfin, il fut mis en prison, accusé justement d'avoir favorisé la fuite d'un évêque auquel il sauva la vie. Heureusement, le marchand forain, qui se connaissait en limes et en barreaux de fer, put s'évader. Mais il fut condamné à mort par contumace, et par parenthèse ne se présenta jamais pour la purger. Il mourut mort. Sa femme partageait ses pieux sentiments. L'avarice de ce ménage ne cédait qu'à la voix de la religion. Les vieux ferrailleurs rendaient exactement le pain béni et donnaient aux quêtes. Si le vicaire de Saint-Étienne venait chez eux pour demander des secours, Sauvia ou sa femme allaient aussitôt chercher sans façon ni grimace ce qu'ils croyaient être leur quote-part dans les aumônes de la paroisse. La Vierge mutilée de leurs piliers fut toujours, dès 1799, ornée de buis à Pâques. À la saison des fleurs, les passants la voyaient fêtée par des bouquets rafraîchis dans des cornets de verre bleu, surtout depuis la naissance de Véronique. Aux processions, les Sauvia tendaient soigneusement leur maison de draps chargés de fleurs et contribuaient à l'ornement, à la construction du reposoir, l'orgueil de leur carrefour. Véronique Sauvia fut donc élevée chrétiennement. Dès l'âge de 7 ans, elle eut pour institutrice une sœur grise auvergnate, à qui les Sauvia avaient rendu quelques petits services. Tous deux, assez obligeants tant qu'il ne s'agissait que de leur personne ou de leur temps, étaient serviables à la manière des pauvres gens, qui se prêtent eux-mêmes avec une sorte de cordialité. La sœur Grise enseigna la lecture et l'écriture à Véronique. Elle lui apprit l'histoire du peuple de Dieu, le catéchisme, l'Ancien et le Nouveau Testament, quelque peu de calcul. Ce fut tout. La sœur crut que ce serait assez. C'était déjà trop. À 9 ans, Véronique étonna le quartier par sa beauté. Chacun admirait un visage qui pouvait être un jour digne du pinceau des peintres empressés à la recherche du beau idéal. Surnommée la Petite Vierge, elle promettait d'être bien faite et blanche. Sa figure de Madone, car la voix du peuple l'avait bien nommée, fut complétée par une riche et abondante chevelure blonde qui fit ressortir la pureté de ses traits. Quiconque a vu la sublime Petite Vierge de Titien, dans son grand tableau de la présentation au temple, saura ce que fut Véronique en son enfance. Même candeur ingénue, même étonnement séraphique dans les yeux, même attitude noble et simple, même port d'infante. À 11 ans, elle eut la Petite Vérole, et ne dut la vie qu'aux soins de la sœur Marthe. Pendant les 2 mois que leur fille fut en danger, les Sauvia donnèrent à tout le quartier la mesure de leur tendresse. Sauvia n'alla plus aux ventes. Il resta tout le temps dans sa boutique, montant chez sa fille, redescendant de moments en moments, la veillant toutes les nuits de compagnie avec sa femme. Sa douleur muette parut trop profonde pour que personne osât lui parler. Les voisins le regardaient avec compassion et ne demandaient des nouvelles de Véronique qu'à la sœur Marthe. Durant les jours où le danger atteignit au plus haut degré, les passants et les voisins virent pour la seule et unique fois de la vie de Sauvia des larmes roulant longtemps entre ses paupières et tombant le long de ses joues creuses. Il ne les essuya point. Il resta quelques heures comme hébété, n'osant point monter chez sa fille, regardant sans voir. On aurait pu le voler. Véronique fut sauvée, mais sa beauté périt. Cette figure, également colorée par une teinte où le brun et le rouge étaient harmonieusement fondus, resta frappée de 1000 fossettes qui grossirent la peau, dont la pulpe blanche avait été profondément travaillée. Le front ne put échapper aux ravages du fléau. Il devint brun et demeura comme martelé. Rien n'est plus discordant que ces tons de briques sous une chevelure blonde. Ils détruisirent une harmonie préétablie. Ces déchirures du tissu, creuses et capricieuses, altérèrent la pureté du profil, la finesse de la coupe du visage, celle du nez, dont la forme grecque se vit à peine, celle du menton, délicat comme le bord d'une porcelaine blanche. La maladie ne respecta que ce qu'elle ne pouvait atteindre, les yeux et les dents. Véronique ne perdit pas non plus l'élégance et la beauté de son corps, ni la plénitude de ses lignes, ni la grâce de sa taille. Elle fut à 15 ans une belle personne, et, ce qui consola les Sauvia, une sainte et bonne fille, occupée, travailleuse, sédentaire. À sa convalescence et après sa première communion, son père et sa mère lui donnèrent pour habitation les 2 chambres situées au 2nd étage. Sauvia, si rude pour lui et pour sa femme, eut alors quelques soupçons du bien-être. Il lui vint une vague idée de consoler sa fille d'une perte qu'elle ignorait encore. La privation de cette beauté qui faisait l'orgueil de ces 2 êtres leur rendit Véronique encore plus chère et plus précieuse. Un jour, Sauvia apporta sur son dos un tapis de hasard et le cloua lui-même dans la chambre de Véronique. Il garda pour elle, à la vente d'un château, le lit en damas rouge d'une grande dame, les rideaux, les fauteuils et les chaises en même étoffe. Il meubla de vieilles choses, dont le prix lui fut toujours inconnu, les 2 pièces où vivait sa fille.
Il mit des pots de réséda sur l'appui de la fenêtre et rapporta de ses courses tantôt des rosiers, tantôt des œillets, toutes sortes de fleurs que lui donnaient sans doute les jardiniers ou les aubergistes. Si Véronique avait pu faire des comparaisons et connaître le caractère, les mœurs, l'ignorance de ses parents, elle aurait su combien il y a d'affection dans ces petites choses. Mais elle les aimait avec un naturel exquis et sans réflexion. Véronique eut le plus beau linge que sa mère pouvait trouver chez les marchands. La Sauvia laissait sa fille libre de s'acheter pour ses vêtements les étoffes qu'elle désirait. Le père et la mère furent heureux de la modestie de leur fille, qui n'eut aucun goût ruineux. Véronique se contentait d'une robe de soie bleue pour les jours de fête, et portait les jours ouvrables une robe de gros mérinos en hiver, d'indienne rayée en été. Le dimanche, elle allait aux offices avec son père et sa mère, à la promenade après vêpres le long de la Vienne ou aux alentours. Les jours ordinaires, elle demeurait chez elle, occupée à remplir de la tapisserie dont le prix appartenait aux pauvres, ayant ainsi les mœurs les plus simples, les plus chastes, les plus exemplaires. Elle ouvrait parfois du linge pour les hospices. Elle entremêla ses travaux de lecture et ne lut pas d'autres livres que ceux que lui prêtait le vicaire de Saint-Étienne, un prêtre de qui la sœur Marthe avait fait faire la connaissance au Sauvia. Pour Véronique, les lois de l'économie domestique furent d'ailleurs entièrement suspendues. Sa mère, heureuse de lui servir une nourriture choisie, lui faisait elle-même une cuisine à part. Le père et la mère mangeaient toujours leurs noix et leurs pains durs, leurs harengs, leurs pois fricassés avec du beurre salé, tandis que pour Véronique, rien n'était ni assez frais ni assez beau. « Véronique doit vous coûter cher, » disait au père Sauvia un chapelier établi en face, et qui avait pour son fils des projets sur Véronique en estimant à 100 000 francs la fortune du ferrailleur. « Oui, voisin, oui, » répondit le vieux Sauvia. « Elle pourrait me demander 10 écus, je les lui donnerais tout de même. Elle a tout ce qu'elle veut, mais elle ne demande jamais rien. C'est un agneau pour la douceur. » Véronique, en effet, ignorait le prix des choses. Elle n'avait jamais eu besoin de rien. Elle ne vit de pièces d'or que le jour de son mariage. Elle n'eut jamais de bourse à elle. Sa mère lui achetait et lui donnait tout à souhait, si bien que pour faire l'aumône à un pauvre, elle fouillait dans les poches de sa mère. « Elle ne vous coûte pas cher, » dit alors le chapelier. « Vous croyez cela, vous, » répondit Sauvia. Vous ne vous en tireriez pas encore avec 40 écus par an. Et sa chambre, elle a chez elle plus de 100 écus de meubles. Mais quand on n'a qu'une fille, on peut se laisser aller. Enfin, le peu que nous possédons sera tout à elle. Le peu? Vous devez être riche, père Sauvia. Voilà 40 ans que vous faites un commerce où il n'y a pas de perte. Ah, l'on ne me couperait pas les oreilles pour 1200 francs, répondit le vieux marchand de ferraille. À compter du jour où Véronique eut perdu la suave beauté qui recommandait son visage de petite fille à l'admiration publique, le père Sauvia redoubla d'activité. Son commerce se raviva si bien qu'il fit dès lors plusieurs voyages par an à Paris. Chacun devina qu'il voulait compenser à force d'argent ce que, dans son langage, il appelait les déchets de sa fille. Quand Véronique eut 15 ans, il se fit un changement dans les mœurs intérieures de la maison. Le père et la mère montèrent à la nuit chez leur fille, qui, pendant la soirée, leur lisait, à la lueur d'une lampe placée derrière un globe de verre plein d'eau, la vie des saints, les lettres édifiantes, enfin tous les livres prêtés par le vicaire. La vieille Sauvia tricotait en calculant qu'elle regagnait ainsi le prix de l'huile. Les voisins pouvaient voir de chez eux ces deux vieilles gens, immobiles sur leur fauteuil comme deux figures chinoises, écoutant et admirant leur fille de toutes les forces d'une intelligence obtuse, pour tout ce qui n'était pas commerce ou foi religieuse. Il s'est rencontré sans doute dans le monde des jeunes filles aussi pures que l'était Véronique.
mais aucune ne fut ni plus pure ni plus modeste. Sa confession devait étonner les anges et réjouir la Sainte Vierge. À 16 ans, elle fut entièrement développée et se montra comme elle devait être. Elle avait une taille moyenne, ni son père ni sa mère n'étaient grands, mais ses formes se recommandaient par une souplesse gracieuse, par ces lignes serpentines si heureuses, si péniblement cherchées par les peintres, que la nature trace d'elle-même si finement, et dont les moelleux contours se révèlent aux yeux des connaisseurs, malgré les linges et l'épaisseur des vêtements, qui se modèlent et se disposent toujours, quoi qu'on fasse, sur le nu. Vraie, simple, naturelle, Véronique mettait en relief cette beauté par des mouvements sans aucune affectation. Elle sortait son plein et entier effet, s'il est permis d'emprunter ce terme énergique à la langue judiciaire. Elle avait les bras charnus des Auvergnates, la main rouge et potelée d'une belle servante d'auberge, des pieds forts mais réguliers et en harmonie avec ses formes. Il se passait en elle un phénomène ravissant et merveilleux, qui promettait à l'amour une femme cachée à tous les yeux. Ce phénomène était peut-être une des causes de l'admiration que son père et sa mère manifestèrent pour sa beauté, qu'ils disaient être divine, au grand étonnement des voisins. Les premiers qui remarquèrent ce fait furent les prêtres de la cathédrale et les fidèles qui s'approchaient de la sainte table. Quand un sentiment violent éclatait chez Véronique, et l'exaltation religieuse à laquelle elle était livrée alors qu'elle se présentait pour communier doit se compter parmi les vives émotions d'une jeune fille si candide, il semblait qu'une lumière intérieure effaça par ses rayons les marques de la petite vérole. Le pur et radieux visage de son enfance reparaissait dans sa beauté première. Quoique légèrement voilé par la couche grossière que la maladie avait étendue, il brillait comme brille mystérieusement une fleur, sous l'eau de la mer que le soleil pénètre. Véronique était changée pour quelques instants. La petite Vierge apparaissait et disparaissait comme une céleste apparition. La prunelle de ses yeux, douée d'une grande contractilité, semblait alors s'épanouir et repousser le bleu de l'iris, qui ne formait plus qu'un léger cercle. Ainsi, cette métamorphose de l'œil, devenue aussi vif que celui de l'aigle, complétait le changement étrange du visage. Était-ce l'orage des passions contenues? Était-ce une force venue des profondeurs de l'âme qui agrandissait la prunelle en plein jour, comme elle s'agrandit ordinairement chez tout le monde dans les ténèbres, en brunissant ainsi l'azur de ses yeux célestes? Quoi que ce fût, il était impossible de voir froidement Véronique, alors qu'elle revenait de l'hôtel à sa place après s'être unie à Dieu, et qu'elle se montrait à la paroisse dans sa primitive splendeur. Sa beauté eut alors éclipsé celle des plus belles femmes. Quel charme pour un homme épris et jaloux que ce voile de chair qui devait cacher l'épouse à tous les regards, un voile que les mains de l'amour lèveraient et laisseraient retomber sur les voluptés permises. Véronique avait des lèvres parfaitement arquées qu'on aurait cru peintes en vermillon, tant y abondait un sang pur et chaud. Son menton et le bas de son visage étaient un peu gras, dans l'acception que les peintres donnent à ce mot. Et cette forme épaisse est, suivant les lois impitoyables de la physiognomonie, l'indice d'une violence quasi morbide de la passion. Elle avait au-dessus de son front, bien modelé mais presque impérieux, un magnifique diadème de cheveux volumineux, abondants et devenus châtains. Depuis l'âge de 16 ans jusqu'au jour de son mariage, Véronique eut une attitude pensive et pleine de mélancolie. Dans une si profonde solitude, elle devait, comme les solitaires, examiner le grand spectacle de ce qui se passait en elle. Le progrès de sa pensée, la variété des images, et l'essor des sentiments échauffés par une vie pure. Ceux qui levaient le nez en passant par la rue de la cité pouvaient voir par les beaux jours la fille des Sovia assise à sa fenêtre, cousant, brodant ou tirant l'aiguille au-dessus de son canevas d'un air assez songeur.
Sa tête se détachait vivement entre les fleurs, qui poétisaient l'appui brun et fendillé de ses croisées à vitraux retenues dans leur réseau de plomb. Quelquefois, le reflet des rideaux de dama rouge ajoutait à l'effet de cette tête déjà si colorée. De même qu'une fleur empourprée, elle dominait le massif aérien, si soigneusement entretenu par elle sur l'appui de sa fenêtre. Cette vieille maison naïve avait donc quelque chose de plus naïf. Un portrait de jeune fille, digne de Myris, de Van Ostade, de Terburg et de Gérardot, encadré dans une de ces vieilles croisées quasi détruites, frustes et brunes que leurs pinceaux ont affectionnées. Quand un étranger, surpris de cette construction, restait béat à contempler le second étage, le vieux Sauvia avançait alors la tête, de manière à se mettre en dehors de la ligne dessinée par le surplomb, sûr de trouver sa fille à la fenêtre. Le ferrailleur rentrait en se frottant les mains et disait à sa femme en patois d'Auvergne « Hé la vieille, on admire ton enfant !» En 1820, il arriva, dans la vie simple et dénuée d'événements que menait Véronique, un accident qui n'eut pas eu d'importance chez toute autre jeune personne, mais qui peut-être exerça sur son avenir une horrible influence. Un jour de fête supprimée, qui restait ouvrable pour toute la ville, et pendant lequel les Sauvias fermaient boutique, allaient à l'église et se promenaient, Véronique passa, pour aller dans la campagne, devant l'étalage d'un libraire, où elle vit le livre de Paul et Virginie. Elle eut la fantaisie de l'acheter à cause de la gravure. Son père paya 100 sous le fatal volume et le mit dans la vaste poche de sa redingote. « Ne ferais-tu pas bien de le montrer à monsieur le vicaire ?» lui dit sa mère, pour qui tout livre imprimé sentait toujours un peu le grimoire. « J'y pensais, » répondit simplement Véronique. L'enfant passa la nuit à lire ce roman, l'un des plus touchants livres de la langue française. La peinture de ce mutuel amour, à demi biblique et digne des premiers âges du monde, ravagea le cœur de Véronique. Une main, doit-on dire divine ou diabolique, enleva le voile qui jusqu'alors lui avait couvert la nature. La petite vierge enfouie dans la belle fille trouva le lendemain ses fleurs plus belles qu'elle ne l'était la veille. Elle entendit leur langage symbolique. Elle examina l'azur du ciel avec une fixité pleine d'exaltation. Et des larmes roulèrent alors sans cause dans ses yeux. Dans la vie de toutes les femmes, il est un moment où elles comprennent leur destinée, où leur organisation jusque-là muette parle avec autorité. Ce n'est pas toujours un homme choisi par quelques regards involontaires et furtifs qui réveille leur sixième sens endormi, mais plus souvent peut-être un spectacle imprévu, l'aspect d'un site, une lecture, le coup d'œil d'une pompe religieuse, un concert de parfums naturels, une délicieuse matinée voilée de ses fines vapeurs, une divine musique aux notes caressantes, enfin quelques mouvements inattendus dans l'âme ou dans le corps. Chez cette fille solitaire, confinée dans cette noire maison, élevée par des parents simples, quasi rustiques, et qui n'avaient jamais entendu de mots impropres, dont la candide intelligence n'avait jamais reçu la moindre idée mauvaise, chez l'angélique élève de la sœur Marthe et du bon vicaire de Saint-Étienne, la révélation de l'amour, qui est la vie de la femme, lui fut faite par un livre suave, par la main du génie. Pour tout autre, cette lecture eût été sans danger. Pour elle, ce livre fut pire qu'un livre obscène. La corruption est relative. Il est des natures vierges et sublimes qu'une seule pensée corrompt. Elle y fait d'autant plus de dégâts que la nécessité d'une résistance n'a pas été prévue. Le lendemain, Véronique montra le livre au bon prêtre qui en approuva l'acquisition. Tant la renommée de Paul et Virginie est enfantine, innocente et pure. Mais la chaleur des tropiques et la beauté des paysages, mais la candeur presque puérile d'un amour presque saint, avait agi sur Véronique. Elle fut amenée par la douce et noble figure de l'auteur vers le culte de l'idéal. cette fatale religion humaine. Elle rêva d'avoir pour amant un jeune homme semblable à Paul. Sa pensée caressa de voluptueux tableaux dans une île embaumée. Elle nomma, par enfantillage, une île de la Vienne, sise au-dessous de Limoges, presque en face le faubourg Saint-Martial, l'île de France. Sa pensée y habita le monde fantastique que se construisent toutes les jeunes filles et qu'elles enrichissent de leur propre perfection. Elle passa de plus longues heures à sa croisée, en regardant passer les artisans, les seuls hommes auxquels, d'après la modeste condition de ses parents, il lui était permis de songer. Habituée sans doute à l'idée d'épouser un homme du peuple, elle trouvait en elle-même des instincts qui repoussaient toute grossièreté. Dans cette situation, elle dut se plaire à composer quelques-uns de ces romans que toutes les jeunes filles se font pour elles seules. Elle embrassa peut-être, avec l'ardeur naturelle à une imagination élégante et vierge, la belle idée d'ennoblir un de ces hommes, de l'élever à la hauteur où la mettaient ses rêves. Elle fit peut-être un Paul de quelque jeune homme choisi par ses regards, seulement pour attacher ses folles idées sur un être, comme les vapeurs de l'atmosphère humide, saisies par la gelée, se cristallisent à une branche d'arbre au bord du chemin. Elle dut se lancer dans un abîme profond, car elle eut souvent l'air de revenir de bien haut, en montrant son front comme un reflet lumineux. Plus souvent encore, elle semblait tenir à la main des fleurs cueillies au bord de quelques torrents suivis, jusqu'au fond d'un précipice. Elle demanda par les soirées chaudes le bras de son vieux père, et ne manqua plus une promenade au bord de la Vienne, où elle allait s'extasiant sur les beautés du ciel et de la campagne, sur les rouges magnificences du soleil couchant, sur les pimpantes délices des matinées trempées de rosée. Son esprit exhala dès lors un parfum de poésie naturelle. Ses cheveux qu'elle nattait et tordait simplement sur sa tête, elle les lissa, les boucla. Sa toilette connut quelques recherches. La vigne qui croissait, sauvage et naturellement jetée dans les bras du vieil Ormeau, fut transplantée, taillée. Elle s'étala sur un treillis vert et coquet. Au retour d'un voyage que fit à Paris le vieux Sauvia, alors âgé de 70 ans, en décembre 1822, le vicaire vint un soir, et après quelques phrases insignifiantes, « Pensez à marier votre fille, Sauvia, » dit le prêtre. « À votre âge, il ne faut plus remettre l'accomplissement d'un devoir important. »« Mais Véronique veut-elle se marier ?» demanda le vieillard stupéfait. « Comme il vous plaira, mon père, » répondit-elle en baissant les yeux. « Nous la marierons, » s'écria la grosse mère Sauvia en souriant. « Pourquoi ne m'en as-tu rien dit avant mon départ, la mère ?» répliqua Sauvia. « Je serai forcé de retourner à Paris. » Jérôme Baptiste Sauvia, un homme aux yeux de qui la fortune semblait constituer tout le bonheur, qui n'avait jamais vu que le besoin dans l'amour, et dans le mariage qu'un mode de transmettre ses biens à un autre soi-même, s'était juré de marier Véronique à un riche bourgeois. Depuis longtemps, cette idée avait pris dans sa cervelle la forme d'un préjugé. Son voisin, le chapelier, riche de 2000 livres de rente, avait déjà demandé pour son fils, auquel il cédait son établissement, la main d'une fille aussi célèbre que l'était Véronique dans le quartier, par sa conduite exemplaire et ses mœurs chrétiennes. Sauvia avait déjà poliment refusé, sans en parler à Véronique. Le lendemain du jour où le vicaire, personnage important aux yeux du ménage Sauvia, eut parlé de la nécessité de marier Véronique, de laquelle il était le directeur, le vieillard se rasa, s'habilla comme pour un jour de fête, et sortit sans rien dire ni à sa fille ni à sa femme. L'une et l'autre comprirent que le père allait chercher un gendre. Le vieux Sauvia se rendit chez M. Grasselin. M. Grasselin, riche banquier de Limoges, était, comme Sauvia, un homme parti sans le sou de l'Auvergne, venu pour être commissaire, et qui, placé chez un financier en qualité de garçon de caisse, avait, semblable à beaucoup de financiers, fait son chemin à force d'économie et aussi par d'heureuses circonstances. Caissier à 25 ans, associé 10 ans après de la maison Perret et Grosse Tête, il avait fini par se trouver maître du comptoir, après avoir désintéressé ses vieux banquiers, tous deux retirés à la campagne et qui lui laissèrent leurs fonds à manier, moyennant un léger intérêt. Pierre Grasselin, alors âgé de 47 ans, passait pour posséder au moins 600 000 francs. La réputation de fortune de Pierre Grasselin avait récemment grandi dans tout le département. Chacun avait applaudi à sa générosité qui consistait à s'être bâti dans le nouveau quartier de la place des Arbres, destiné à donner à Limoges une physionomie agréable, une belle maison sur le plan d'alignement, et dont la façade correspondait à celle d'un édifice public. Cette maison, achevée depuis 6 mois, Pierre Grasselin hésitait à la meubler. Elle lui coûtait si cher qu'il reculait le moment où il viendrait l'habiter. Son amour-propre l'avait entraîné peut-être au-delà des lois sages qui jusqu'alors avaient gouverné sa vie. Il jugeait avec le bon sens de l'homme commercial que l'intérieur de sa maison devait être en harmonie avec le programme de la façade. Le mobilier, l'argenterie et les accessoires nécessaires à la vie qu'il mènerait dans son hôtel allaient, selon son estimation, coûter autant que la construction. Malgré les dires de la ville et les lazzi du commerce, malgré les charitables suppositions de son prochain, il resta confiné dans le vieux, humide et sale rez-de-chaussée où sa fortune s'était faite, rue Montemagne. Le public glosa, mais Grasselin eut l'approbation de ses deux vieux commanditaires, qui le louèrent de cette fermeté peu commune. Une fortune, une existence, comme celle de Pierre Grasselin, devait exciter plus d'une convoitise dans une ville de province. Aussi plus d'une proposition de mariage avait-elle été, depuis 10 ans, insinuée à M. Grasselin. Mais l'état de garçon convenait si bien à un homme occupé du matin au soir, constamment fatigué de courses, accablé de travail, ardent à la poursuite des affaires comme le chasseur à celle du gibier, que Grasselin ne donna dans aucun des pièges tendus par les mères ambitieuses qui convoitaient pour leur fille cette brillante position. Grasselin, ce Sauvia de la sphère supérieure, ne dépensait pas 40 sous par jour et allait vêtu comme son second commis. 2 commis et un garçon de caisse lui suffisaient pour faire des affaires, immenses par la multiplicité des détails. Un commis expédiait la correspondance, un autre tenait la caisse. Pierre Grasselin était, pour le surplus, l'âme et le corps. Ses commis, pris dans sa famille, étaient des hommes sûrs, intelligents, façonnés au travail comme lui-même. Quant au garçon de caisse, il menait la vie d'un cheval de camion. Levé des 5 heures en tout temps, ne se couchant jamais avant 11 heures, Grasselin avait une femme à la journée, une vieille auvergnate qui faisait la cuisine. La vaisselle de terre brune, le bon gros linge de maison, était en harmonie avec le train de cette maison. L'auvergnate avait ordre de ne jamais dépasser la somme de 3 francs pour la totalité de la dépense journalière du ménage. Le garçon de peine servait de domestique. Les commis faisaient eux-mêmes leur chambre. Les tables en bois noirci, les chaises dépaillées, les casiers, les mauvais bois de lit, tout le mobilier qui garnissait le comptoir et les 3 chambres situées au-dessus ne valait pas 1 000 francs, y compris une caisse colossale, tout en fer, scellée dans les murs, léguée par ses prédécesseurs, et devant laquelle couchait le garçon de peine avec 2 chiens à ses pieds. Grasselin ne hantait pas le monde où il était si souvent question de lui. 2 ou 3 fois par an, il dînait chez le receveur général,
avec lequel ses affaires le mettaient en relation suivie. Il mangeait encore quelquefois à la préfecture. Il avait été nommé membre du conseil général du département, à son grand regret. Il perdait là son temps, disait-il. Parfois, ses confrères, quand il concluait avec eux des marchés, le gardaient à déjeuner ou à dîner. Enfin, il était forcé d'aller chez ses anciens patrons, qui passaient les hivers à Limoges. Il tenait si peu aux relations de société qu'en 25 ans, Grasselin n'avait pas offert un verre d'eau à qui que ce soit. Quand Grasselin passait dans la rue, chacun se le montrait en se disant « Voilà Monsieur Grasselin !» C'est-à-dire « Voilà un homme venu sans le sou à Limoges et qui s'est acquis une immense fortune. » Le banquier Auvergnat était un modèle que plus d'un père proposait à son enfant, une épigramme que plus d'une femme jetait à la face de son mari. Chacun peut concevoir par quelles idées un homme devenu le pivot de toute la machine financière du Limousin fut amené à repousser les diverses propositions de mariage qu'on ne se lassait pas de lui faire. Les filles de messieurs Perret et Grosse-Tête avaient été mariées avant que Grasselin eût été en position de les épouser, mais comme chacune de ces dames avait des filles en bas âge, on finit par laisser Grasselin tranquille, imaginant que soit le vieux Perret ou le fin Grosse-Tête avait par avance arrangé le mariage de Grasselin avec une de leurs petites filles. Sauvia suivit plus attentivement et plus sérieusement que personne la marche ascendante de son compatriote. Il l'avait connu lors de son établissement à Limoges. Mais leurs positions respectives changèrent si fort, du moins en apparence, que leur amitié devenue superficielle se rafraîchissait rarement. Néanmoins, en qualité de compatriote, Grasselin ne dédaigna jamais de causer avec Sauvia, quand par hasard ils se rencontrèrent. Tous deux, ils avaient conservé leur tutoiement primitif, mais en patois d'Auvergne seulement. Quand le receveur général de Bourges, le plus jeune des frères Grosse-Tête, eut marié sa fille en 1823 au plus jeune fils du comte de Fontaine, Sauvia devina que les Grosse-Tête ne voulaient point faire entrer Grasselin dans leur famille. Après sa conférence avec le banquier, le père Sauvia revint joyeux dîner dans la chambre de sa fille et dit à ses deux femmes « Véronique sera Madame Grasselin. »« Madame Grasselin ? » s'écria la mère Sauvia stupéfaite. « Est-ce possible ? » dit Véronique, à qui la personne de Grasselin était inconnue, mais à l'imagination de laquelle il se produisait, comme se produit un des Rothschild à celle d'une grisette de Paris. « Oui, c'est fait, » dit solennellement le vieux Sauvia. Grasselin meublera magnifiquement sa maison. Il aura pour notre fille la plus belle voiture de Paris et les plus beaux chevaux du Limousin. Il achètera une terre de 500 000 francs pour elle et lui assurera son hôtel. Enfin, Véronique sera la première de Limoges, la plus riche du département, et fera ce qu'elle voudra de Grasselin. Son éducation, ses idées religieuses, son affection sans borne pour son père et sa mère, son ignorance, empêchèrent Véronique de concevoir une seule objection. Elle ne pensa même pas qu'on avait disposé d'elle sans elle. Le lendemain, Sauvia partit pour Paris et fut absent pendant une semaine environ. Pierre Grasselin était, vous l'imaginez, peu causeur. Il allait droit et promptement au fait. Chose résolue, chose exécutée. En février 1822, éclata comme un coup de foudre dans Limoges une singulière nouvelle. L'hôtel Grasselin se meublait richement. Des voitures de roulage venues de Paris se succédaient de jour en jour à la porte et se déballaient dans la cour. Il courut dans la ville des rumeurs sur la beauté, sur le bon goût d'un mobilier moderne ou antique, selon la mode. La maison Audio expédiait une magnifique argenterie par la malle-poste. Enfin, trois voitures, une calèche, un coupé, un cabriolet, arrivaient entortillées de paille, comme des bijoux. « Monsieur Grasselin se marie !» Ces mots furent dits par toutes les bouches, dans une seule soirée,
dans les salons de la haute société, dans les ménages, dans les boutiques, dans les faubourgs, et bientôt dans tout le Limousin. Mais avec qui ? Personne ne pouvait répondre. Il y avait un mystère à Limoges. Au retour de Sauvia eut lieu la première visite nocturne de Gracelin, à 9h30. Véronique, prévenue, attendait, vêtue de sa robe de soie bleue à guimpes, sur laquelle retombait une collerette de linon à grand ourlet. Pour toute coiffure, ses cheveux, partagés en deux bandeaux bien lissés, furent rassemblés en mamelons derrière la tête, à la grecque. Elle occupait une chaise de tapisserie, auprès de sa mère assise au coin de la cheminée, dans un grand fauteuil à dossier sculpté, garni de velours rouge, quelques débris de vieux châteaux. Un grand feu brillait à l'âtre. Sur la cheminée, de chaque côté d'une horloge antique dont la valeur était certes inconnue au Sauvia, 6 bougies dont 2 vieux bras de cuivre figurant des sarments éclairaient et cette chambre brune et Véronique dans toute sa fleur. La vieille mère avait mis sa meilleure robe. Par le silence de la rue, à cette heure silencieuse, sur les douces ténèbres du vieil escalier, apparut Gracelin à la modeste et naïve Véronique, encore livrée aux suaves idées que le livre de Bernardin de Saint-Pierre lui avait fait concevoir de l'amour.